France Info.
Modèles météo divergent, hein. Ils donnent des scénarios très différents. Alors certains annoncent le maintien de la douceur, de ce temps pas très froid finalement et assez lumineux, et d'autres prévoient le retour de ce flux de nord-est glacial et perturbé.
Attendons de voir, on vérifiera ça avec vous. Christine Peña, merci beaucoup, on vous retrouve dans 10 minutes. Merci à tous d'écouter France Info, il est 5h. Et à la une de ce 13 janvier, le choc et la consternation en Corse après l'assassinat d'Alain Orsoni, figure nationaliste tuée hier devant la tombe de sa mère que l'on venait d'enterrer. À la une également, nous en parlions, le début du procès en appel de Marine Le Pen qui risque toujours l'inéligibilité. Le président américain qui menace désormais de droits de douane supplémentaires ceux qui soutiennent l'Iran. Et puis le foot avec une énorme surprise, le PSG éliminé de la Coupe de France par son nouveau voisin, le Paris FC. C'était une personnalité en Corse, figure du nationalisme, nous le disions, du football aussi, car il avait présidé l'AC Ajaccio. Alain Orsoni a donc été tué hier, et ce qui interpelle, ce sont donc les circonstances du crime. Il a été abattu par balle, probablement avec une arme à longue distance, dans le village de Véro, au cimetière où il venait tout juste d'enterrer sa mère. Méthode qui choque énormément les Corses que vous avez rencontrés à Ajaccio, Simon Le Baron.
C'est une réaction unanime.
Ça se fait pas, quoi. Ils auraient pu régler leur compte après, mais pas ce jour-là.
Et ils ont beau creuser, sonder leurs souvenirs.
Ça se passe dans un endroit où ça se passait pas avant.
Aucun ne se rappelle d'un tel assassinat, devant la tombe d'une mère.
Avant, en Corse, les femmes et tout ce qui est religieux, les enterrements, les trucs comme ça, ça n'arrivait jamais.
Pour nous, les Corses, les morts, c'est sacré. Et là, le fait que ça se passe lors d'un enterrement d'un proche, je trouve ça inadmissible. Après...
Mais on l'entend aussi beaucoup, ce « après », qui veut dire « il fallait s'y attendre ».
Ça reste assez étonnant, mais bon, après, c'était quelqu'un du milieu. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est le cycle d'une vie quand on est impliqué dans le milieu.
Peut-être qu'un meilleur moment aurait été choisi, mais après, ça se passe comme ça ici. Hein.
Tous refusent d'ailleurs de donner leur nom, et certains lâchent ce mot.
Ah, la vendette.
La vendetta.
J'en tue un de chez moi et je tue un de chez toi. Ça a toujours marché comme ça.
On s'y attend tous, hein. Après, il faut refaire attention. C'est tout. Hein.
La certitude, l'évidence que cela ne s'arrêtera pas là.
Un reportage à Ajaccio a signé Simon Le Baron. C'est un procès capital pour Marine Le Pen qui s'ouvre aujourd'hui. Elle y joue sa survie politique peut-être. La présidente des députés RN, rejugée en appel à partir d'aujourd'hui dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du FN, affaire qui lui avait valu une peine en première instance de 2 ans de prison ferme et de 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, ce qui la prive pour l'heure de présidentielle en 2027. Celui qu'elle a désigné comme potentiel remplaçant, c'est le président du parti, Jordan Bardella. Lors de ses vœux à la presse, hier après-midi, il a renouvelé son soutien à sa mentor.
Je veux redire avec force mon soutien total et mon amitié à Marine Le Pen. Il serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d'une candidate à l'élection présidentielle déjà qualifiée à 2 reprises pour le second tour et aujourd'hui donnée comme favorite incontestée du scrutin. Elle démontrera son innocence.
Je me garderai bien de tout commentaire politique dans la mesure où le procès s'ouvre dans quelques heures et où, loin de toute volonté de polémiquer, nous entendons démontrer sur le fond notre totale innocence sur cette affaire. Maintenant, les politiques doivent faire de la politique, les juristes doivent faire du droit.
Début de l'audience pour ce procès en appel à 13h30. On l'apprend à l'instant, les indépendantistes du FLNKS annoncent décliner l'invitation vendredi à l'Élysée, invité à discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Paris est sourd et ne connaît que le rapport de force. C'est pour cela que nous n'irons pas à la réunion, déclare le président du FLNKS, la principale formation du front indépendantiste. Plus de 600 morts, c'est le bilan toujours flou que tentent d'établir des ONG en Iran, où des manifestations sont toujours réprimées dans le sang. Face à cela, les États-Unis menacent d'intervenir militairement. Donald Trump doit rencontrer aujourd'hui son équipe de sécurité nationale pour discuter des options possibles. Il hésite, Franck Madvon, encore entre une intervention militaire et laisser une dernière chance à la diplomatie.
Donald Trump serait plutôt favorable à des frappes militaires, mais d'après plusieurs médias américains, des membres de l'administration tentent de l'en dissuader. C'est le cas de son vice-président J.D. Vance, de nature moins interventionniste. Parmi les arguments des partisans de la diplomatie, la crainte que des frappes ne donnent du crédit au récit du régime iranien d'un complot ourdi par les États-Unis et Israël. En attendant, Donald Trump durcit le ton. Il a menacé hier les partenaires commerciaux de l'Iran de 25% de droits de douane supplémentaires. Tout à l'heure, ses conseillers, des généraux, lui présenteront différentes options, de nouvelles sanctions économiques, des cyberattaques ou des options militaires. Donc, les États-Unis n'ont pas de porte-avions actuellement au Moyen-Orient, mais suffisamment de bases pour lancer des attaques. Une hypothèse pourrait être une nouvelle frappe, après celle de l'an dernier, pour accentuer la pression sur Téhéran avant d'éventuelles négociations. En clair, vulnérabiliser un peu plus un régime iranien déjà très affaibli par la contestation.
Franck Madvon à Washington pour France Info. Et alors que Donald Trump répète qu'il compte s'emparer du Groenland, territoire danois de l'Arctique, un consulat français va y ouvrir d'ici cet été. Les premiers préparatifs seront lancés le mois prochain, consulat pour affirmer le soutien de la France au Groenland. Comment lutter contre les fake news, les infox médicales qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux? Une mission d'expertise sur la désinformation en santé a rendu hier soir son rapport à Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, et sur la base de ce rapport de 50 pages, elle a dévoilé hier sa stratégie contre cette forme de désinformation, Anne Le Gall.
Qu'il s'agisse de vaccination, de cancer, d'alimentation ou de médecine alternative, la désinformation scientifique émane le plus souvent de militants, d'influenceurs ou de lobbies économiques, souligne ce rapport de 50 pages. Sur Internet, ces infox sont bien souvent dopés par des algorithmes qui favorisent l'émotion au détriment des faits, regrettent les auteurs de cette synthèse qui sont trois scientifiques experts en pharmacologie, épidémiologie et santé publique. Dans le sillage de ce rapport, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a donc annoncé hier soir plusieurs pistes pour lutter contre cette désinformation qui constitue une menace.
Quand on est mal informé, on peut soit arrêter ses traitements, soit ne pas les prendre, soit en prendre des qui ne sont pas des traitements homologués par la science. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a un risque, avec ces fausses informations aussi, un risque, je le crois, démocratique.
Et parmi les pistes d'action présentées hier par la ministre, il y a l'éducation critique des citoyens, notamment des plus jeunes vis-à-vis des sujets de santé, mais aussi la création, dès la fin de ce mois-ci, d'un système public d'infovigilance afin de mieux repérer les fake news et les corriger plus rapidement.
Anne Le Gall du service Sciences, Santé et Environnement de France Info. Ce n'était vraiment pas le scénario attendu en Coupe de France de football. Le PSG, 16 fois vainqueur de la compétition, vainqueur en titre, a été éliminé en 16e aux portes des 8e de finale. Et pas par n'importe qui, Nicolas Perronnet, par le Paris FC, le voisin. Alors le PSG, forcément, est tombé de haut.
À la sortie du Parc des Princes, les supporters du PSG sont assez unanimes au moment de résumer le sentiment général.
Je suis dégoûté.
Ouais, franchement dégoûté.
Chems n'en croit pas ses yeux.
Moi, ça fait 10 ans que je suis pas venu au Parc. Et je viens, Coupe de France, je m'attendais au moins à un but du PSG et pas de but, franchement, je suis déçu.
Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Cette élimination, c'est la conséquence d'un festival d'occasions manquées, reconnaît le milieu de terrain du PSG, Seni Mayoulou.
On a eu des occasions, on n'a pas réussi à finir, que là, on se prend une claque. Un match, c'est une compétition, on veut tout gagner, du coup c'est quand même casse-pied.
Le Paris Saint-Germain ne gagnera donc pas tout cette saison et pour la première fois depuis son arrivée, son entraîneur ne gagnera pas tout. En France, Luis Enrique laisse échapper un trophée et se demande bien comment.
Ce que j'ai vu pendant tous les matchs, on a été très supérieurs. C'est injuste pour moi les résultats, mais il faut l'accepter et c'est comme ça le football. Ce n'est pas juste, c'est un résultat tellement bizarre.
Une anomalie, comme de voir la route du PSG s'arrêter dès les 16e de finale de la Coupe de France. Une première depuis 12 ans.
Merci beaucoup Nicolas Perronnet. Et puis les victoires de la musique, c'est dans un mois tout pile. Et l'on connaît désormais le nom des nommés. Aurel San va-t-il battre le record absolu? Il a déjà 12 victoires et il est en lice cette année dans deux catégories. Ajoutons que pour la première fois, la catégorie de la chanson originale est 100% féminine. Théodora, Bleu Soleil et Louisa, Elena, Charlotte Cardin et Marguerite.
Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand il y a des filles dans la teuf.
Alors qui remportera la, ou plutôt les victoires de la musique? La réponse, ce sera le 13 février. On suivra ça évidemment sur France Info. Christine Peña, une chanson un peu enjouée, un peu printanière.
Oui.
Ce sera l'ambiance d'ailleurs, printanière, mais si on est dans le sud-ouest.
Hein. Voilà, dans le sud-ouest, oui, nous irons jusqu'à 18 degrés quand même à Bayonne. Hein. Ça fait un
ah
peu
oui,
beaucoup.
Oui, c'est presque estival.
Hein. Mois de janvier, effectivement, ça sera un peu moins marqué, cette douceur ailleurs. Nous aurons quand même à Clermont-Ferrand, à Limoges, à Bordeaux, à Montpellier, 15 degrés cet après-midi. 13 à Lyon, ça remonte hein, dans l'est et le nord-est également. 12 degrés pour Paris, pour Caen, pour Tours et La Rochelle. 10 degrés pour Strasbourg, Reims et Lille.
Christine Peña et Marguerite pour la météo. France
Presse Info, 6h-9h.
Bonjour, c'est Jérôme Chapuis. Je vous retrouve tous les matins dès 6h avec toutes les équipes de France Info, nos chroniqueurs, l'édito politique, le décryptage éco, France Info Monde, nos invités, les enquêtes et reportages de la rédaction, toute l'actu qui vous concerne pour rester informé en toute confiance.
6h-9h, du lundi au jeudi, c'est Jérôme Chapuis sur France Info.
Les réseaux sociaux altèrent bien la santé de nos ados. C'est la conclusion d'une très vaste étude de l'ANSES qui a duré 5 ans. Explications et surtout solutions sur France Info dans une dizaine de minutes. Mais d'abord, l'avenir présidentiel de Marine Le Pen, de nouveau dans la balance de la justice.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Avec le début de son procès en appel dans l'affaire des assistants du Rassemblement National au Parlement européen, début à 13h30 au Palais de Justice de Paris, avec évidemment cet enjeu politique énorme pour Marine Le Pen, la possibilité ou non de se présenter à la présidentielle l'année prochaine. Bonjour Yannick Falt.
Bonjour.
Service police-justice de France Info, c'est vous qui allez suivre ce procès. Alors Marine Le Pen, en première instance, elle a été assez lourdement condamnée. 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 euros d'amende et surtout ses 5 ans d'inéligibilité immédiate. Alors comment le tribunal avait justifié cette peine ?
Eh bien par le système mis en place, car pour le tribunal correctionnel de Paris, Marine Le Pen ne s'est certes pas enrichie, pas plus que les autres prévenus, mais elle ne peut pas expliquer les faits par des erreurs administratives ou une incompréhension des règles européennes. Eurodéputée alors, et chef du parti, elle a été condamnée pour avoir piloté ce système, créé pour payer les salariés du Front National de l'époque, un préjudice de plus de 4 millions d'euros et un Parlement européen qui a même été qualifié de vache à lait du parti par le parquet dans ses réquisitions.
Et comment les juges, Yannick, ont-ils plus précisément expliqué ces 5 ans d'inéligibilité immédiate ?
Par le risque de récidive de Marine Le Pen, en raison notamment de son attitude lors du procès, aucune reconnaissance des faits, à cause du risque de trouble à l'ordre public aussi, avec une candidature à la présidentielle d'une personne condamnée pour détournement de fonds, en raison enfin de la nécessité de ne pas accorder un régime de faveur aux élus.
Et sait-on quelle sera désormais la ligne de défense de Marine Le Pen pour ce deuxième procès ?
Non, silence radio, contrairement au premier procès où un porte-parole avait même été désigné, aucune déclaration de ses avocats. Pour ce nouveau rendez-vous avec la justice, un stratège du RN prévient, le procès se fait devant les juges, pas dans les médias. Marine Le Pen sera en tout cas doublement défendue par Rodolphe Bosselu, qui était déjà là en première instance, mais aussi par une nouvelle avocate, Sandra Chirac-Colaric, un duo pour mieux séparer ses anciens rôles de chef de parti et de députée européenne.
Mais ce qui est sûr, Yannick, c'est que la défense de Marine Le Pen en première instance, lors du premier procès, a été critiquée, y compris en interne.
Oui, trop présente, laissant peu de place à son avocat, elle qui a commencé sa vie professionnelle comme avocate, trop agressive avec sa mise en cause de l'impartialité du tribunal, un ancien cadre du parti fulmine hors micro, avec les autres prévenus, elle a été dans le déni complet, je savais qu'ils allaient s'en prendre plein la figure, cette peine de 5 ans d'inéligibilité immédiate, à laquelle Marine Le Pen espère échapper cette fois, sinon, adieu la candidature à l'Élysée, cassation ou pas, elle a répété hier qu'elle passerait la main à Jordan Bardella.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Yannick Falt. Je rappelle que c'est vous qui allez suivre ce procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Début de l'audience à 13h30 que l'on suivra sur France Info avant évidemment une décision qui sera mise en délibéré et qui est attendue d'ici cet été. Ce procès, les électeurs d'Hénin-Beaumont le suivront très attentivement. Hénin-Beaumont, c'est le fief politique de Marine Le Pen. C'est là qu'elle est élue députée. Hélène Terzian, pour le service politique de France Info, vous êtes rendue dans ce fief à la rencontre des sympathisants du RN qui sont forcément un petit peu inquiets.
Ils font tout pour pas qu'elle passe.
Sous sa capuche et sous la pluie, Muriel est en colère. Pas seulement parce que son bus arrive en retard, mais parce qu'elle redoute à nouveau que sa députée Marine Le Pen soit empêchée de se présenter en 2027.
C'est une brave femme. Elle fait tout pour Hénin Beaumont.
Je suis d'accord avec cette dame, ouais.
Ils font tout pour pas qu'elle passe. Ils ont peur. Ils ont peur. C'est injuste.
Ils, ce sont les juges à l'arrêt de bus qui devient un lieu de débat. Caroline parle d'un procès politique.
Il n'y a aucun homme politique qui n'a rien à se reprocher. Si on veut faire les procès de tous les hommes politiques, je pense qu'il n'y en aurait plus. De là à juger quelqu'un pile un an avant la présidentielle, je pense que ouais, c'est purement politique.
À quelques mètres seulement, au café d'en face.
Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir ?
Ici, le patron ne veut pas parler politique, mais au comptoir, Marc tend ostensiblement...
Ma carte d'adhérent.
Militant au RN depuis 43 ans, il était allé soutenir Marine Le Pen au Rassemblement parisien après sa condamnation en première instance et croit dur comme fer en l'innocence de sa championne.
ça va se passer. Elle va se présenter sur les élections.
Elle a pu faire une erreur, Marine Le Pen ?
Non, il n'y a pas d'erreur.
En tout cas, en première instance, les juges ont dit qu'elle avait détourné de l'argent du Parlement européen pour l'utiliser au parti.
C'est faux, on a le droit.
Mais la loi ne dit pas ça.
Non. Faut pas oublier, c'était 9 ou 4, Access Café.
Autre café, autre ambiance. Didier fait des paris hippiques. En 2027, il aimerait pouvoir parier sur Marine Le Pen, mais pour lui, tout le monde doit être logé à la même enseigne.
Elle fait des conneries, tant pis pour elle, hein. C'est comme tout le monde. Moi, je dis, pas de passe-droit. Hein. C'est... Moi, si je fais des conneries, je vais en prison. Bah oui, c'est dommage, mais bon, après, si elle a fait des boulettes.
Et il le sait, si elle ne peut pas se présenter, ce sera le plan B, Jordan Bardella.
Un bon petit jeune, après, on parle bien, puis après, quand on est en haut, on fait plus rien.
Pas le choix.
En poussant son caddie, Katia tente de se résoudre à cette option.
Bah oui, parce que voilà, j'ai toujours été pour elle et en plus je suis des limbes au monde, donc je perds pas espoir.
Reste que Jordan Bardella caracole dans les sondages. Il est même plus haut que sa patronne. Théo et Flore Lavantaine ont presque déjà tourné la page.
Moi, je pense qu'il y aura plus de chance parce qu'il est plus jeune, il touche plus les jeunes.
Le nom à Bardella, il fait moins peur que celui de Le Pen.
Ça ferait même gagner du temps qu'il soit déjà candidat, disent-ils. Dans une enquête du Monde, 70% des électeurs du RN estiment qu'il est en meilleure position pour l'emporter.
France Info reportage à Hénin-Beaumont, signé Hélène Terzian. La méthode a sidéré toute la Corse. L'ancien dirigeant nationaliste Alain Orsoni a été tué hier alors qu'il était aux obsèques de sa mère. Il est mort sur place, tué par balle. Il était aussi l'ancien président du club de foot d'Ajaccio. Il avait déjà été visé par une tentative d'assassinat en 2008. Son frère Guy avait été aussi tué au début des années 80. Alain Orsoni, qui venait de rentrer la veille du Nicaragua, pays où il vivait, une affaire pour l'instant floue sur les motivations, même si la piste du grand banditisme est évoquée. Frédéric Ploquin est journaliste, il est justement spécialiste du grand banditisme.
Il était revenu à la Orsoni hier du Nicaragua pour accompagner jusqu'à sa dernière demeure, comme on dit, sa mère. Et c'est à cet endroit précis que les tueurs ont décidé de l'abattre, c'est-à-dire quasiment de pousser le fils dans le cercueil de la mère. Et ça, c'est quelque chose de sacré. Et effectivement, pour les Corses, on touche au sacré. Jamais on n'avait vu une telle opération. On l'avait vu partout, jusque dans des prisons, puisque Alain Orsoni avait pourchassé ceux qui avaient enlevé et torturé son petit frère Guy Orsoni en 1983. Il avait poursuivi les assassins jusque dans l'enceinte de la prison d'Ajaccio en 1984. Mais là, ce contexte traumatise, sidère littéralement la Corse tout entière pour cette raison-là.
J'imagine d'abord que l'enquête, elle s'annonce difficile. Et est-ce qu'il faut redouter un nouveau cycle de violence sur l'île ?
Pour ses proches, cet assassinat n'a pas de lien avec la politique ni avec le mouvement nationaliste. Alain Orsoni avait quitté d'ailleurs le mouvement nationaliste pour des raisons de désaccords divers avec ses camarades, ses collègues. Il avait quitté le mouvement au milieu des années 90, en 1995, donc ça fait déjà 30 ans. Il avait choisi l'exil et avait refait sa vie, notamment au Nicaragua, où voilà, il vivait dans une espèce de ranch là, au milieu de ses chevaux. Il était passé à autre chose. Et il ne revenait que très, très, très peu en Corse. Ce que je peux vous dire, parce que ça, c'est extrêmement important, je pense, pour les enquêteurs, c'est que lorsqu'il est revenu en Corse hier, qu'il a donc veillé pendant, comme ça se fait en Corse, veillé le cercueil à la maison, à Véro, dans la maison familiale, il ne portait pas à Orsoni le moindre gilet pare-balles, il ne portait pas d'armes sur lui, et on l'a même vu aller faire ses courses en ville. C'est important, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est revenu en Corse pour enterrer sa mère en se sentant traqué.
Oui, il ne se sentait pas menacé.
Ça, c'est extrêmement important à savoir. Il ne s'attendait pas à ça. Ce qui est une information qui devrait orienter probablement l'enquête de la police judiciaire, peut-être dans des directions inattendues, et pourquoi pas vers le jeune milieu corse actuel qui aurait peut-être voulu éliminer cette figure tutélaire. Pourquoi pas, c'est une question que je me pose, pour atteindre d'ailleurs son fils Guy Orsoni qui est en prison et qui lui-même doit répondre devant la justice d'un certain nombre de faits liés au trafic de stupéfiants.
Le journaliste et spécialiste du grand banditisme Frédéric Ploquin qui répondait sur France Info à Julien Langlais. Scrollez nuit gravement à la santé des ados. On s'en doutait, mais une étude française prouve que les réseaux sociaux sont bien très dangereux pour le développement des jeunes. On vous la détaille dans un instant.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Laura Dulieu.
Bonjour.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous et à la une. Un cortège d'agriculteurs autorisé ce matin à Paris.
Dans un souci constant de dialogue, dit la préfecture de police, avec un trajet très balisé, les tracteurs de la FRSEA vont pouvoir partir de la porte Dauphine d'ici quelques minutes à 5h30 pour rejoindre les Champs-Élysées avant de se rassembler toute la journée sur le quai d'Orsay. Marine Le Pen de retour devant la justice pour son procès en appel dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants parlementaires du Front National. Le jugement ne sera pas rendu avant plusieurs mois. Condamné en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité immédiate. Marine Le Pen joue notamment sa candidature à la présidentielle de 2027. Donald Trump menace les partenaires commerciaux de l'Iran de sanctions douanières, alors que les ONG parlent d'au moins plusieurs centaines de morts dans le pays parmi les manifestants contre le pouvoir. Hier, la télévision d'État a diffusé des images de milliers d'Iraniens descendus dans les rues, cette fois en soutien au régime. Charlie Hebdo, visé par une plainte déposée par un avocat suisse après la publication d'une caricature sur les victimes de l'incendie de Crans-Montana, dans lequel 40 personnes ont été tuées.
France Info.
La conclusion paraît évidente, mais encore fallait-il la prouver scientifiquement. La santé de nos adolescents est bien altérée par les réseaux sociaux. Conclusion d'une étude de l'ANSES, l'Agence Nationale de Santé et de Sécurité, menée pendant 5 ans et qui s'appuie sur des milliers d'expertises scientifiques. Bonjour Audrey Abraham.
Bonjour.
Alors à première vue, rien de nouveau, mais cette étude, elle prend en compte des critères inédits.
Jusqu'ici, il avait beaucoup été question des effets des écrans sur les jeunes. La lumière bleue, la sédentarité, la concentration aussi. Cette fois, l'ANSES s'attarde sur le contenu des réseaux sociaux et sur l'engagement émotionnel qu'ils produisent. On le sait, leur modèle économique repose sur la captation de l'attention. Ça passe par le design, par les interfaces spécialement conçues pour retenir l'utilisateur, les notifications, l'enchaînement des vidéos, le système de likes. Et toutes ces stratégies ont des effets concrets sur des adolescents dont le développement cérébral n'est pas terminé, dont la vulnérabilité aux troubles psychiatriques est importante et qui sont en pleine recherche d'identité. Pour cette étude, l'ANSES a fait appel à une cinquantaine d'experts dans des disciplines très variées, des pédiatres, psychiatres, épidémiologistes, mais aussi des spécialistes en sciences humaines et sociales.
Et les effets observés sur les jeunes sont très variés, Audrey.
On apprend déjà que les filles sont plus impactées que les garçons. D'abord parce qu'elles utilisent plus les réseaux sociaux et qu'elles accordent plus d'importance à ce qu'il s'y passe. Elles sont aussi davantage la cible de cyberharcèlement et de pression sociale. L'ANSES évoque bien sûr l'image du corps, l'intériorisation d'idéaux de beauté, la minceur notamment, qui est un gros facteur de risque de troubles alimentaires. C'est documenté depuis plusieurs décennies avec les magazines de mode, mais l'agence de santé souligne une spécificité. Sur les réseaux sociaux, l'adolescent ne se compare pas à des mannequins mais à d'autres jeunes, ce qui renforce le sentiment d'insatisfaction. L'étude pointe aussi la normalisation des conduites à risque avec la diffusion de défis dangereux, la facilité d'accès aux drogues aussi, et puis la cyberviolence est une vraie préoccupation. Là aussi, les filles sont plus concernées, on pense entre autres à la diffusion non consentie d'images intimes.
Alors Audrey, ça c'est le côté constat, le côté observation, mais l'ANSES dans cette étude établit aussi des recommandations.
Seuls les réseaux sociaux protecteurs de la santé des ados devraient être accessibles aux mineurs. C'est la principale recommandation. À demi-mot, l'ANSES reconnaît qu'en l'état, tels qu'ils sont conçus, ce n'est pas compatible, notamment parce que capter infiniment l'attention de l'internaute est au cœur de leur stratégie. Mais l'agence de santé se garde bien de commenter le travail du législateur. Concernant une potentielle interdiction au moins de 15 ans, l'ANSES botte en touche. L'étude constitue un socle de connaissances scientifiques solide, au législateur de s'en saisir et de faire des choix. Fin de citation.
Merci beaucoup Audrey Abraham. À 5h24, nous sommes dans le monde d'Élodie. Avec un grand nom du théâtre, de la télé et du cinéma ce matin qui sort une autobiographie.
Bonjour Pierre Arditi.
Bonjour.
Vous êtes cet acteur de théâtre et de cinéma qui nous accompagne depuis quelques décennies.
60 ans.
Qu'on se le dise, ce métier d'acteur était fait pour vous. C'est d'ailleurs votre père, un peintre et décorateur de théâtre communiste d'origine juive, qui vous a initié en vous emmenant voir des spectacles dans ce lieu devenu magique à vos yeux, le théâtre. Et comme la vie est parfois étrange, vous avez mis du temps à comprendre ou à accepter que les planches n'attendaient que vous. Il aura donc fallu attendre que vous viviez un chagrin d'amour et que vous ayez envie d'en finir avec la vie pour que vous acceptiez de les fouler, ces planches. Avec en prime le plaisir d'apparaître sur petit et grand écran avec des collaborations extraordinaires. Je pense évidemment à Alain Resnais, Claude Lelouch, Bruno Podalides, Pascal Thomas, Bertrand Blier ou encore Gérard Horry, je vais pas tous les citer. Vous venez de publier Le souvenir de presque tout aux éditions du Cherche Midi. C'est évidemment un ouvrage autobiographique. Vous nous livrez quelques-uns de vos souvenirs gravés dans votre mémoire. Et à sa lecture, quand on referme le livre, une question nous taraude. Qu'est-ce qui fait que notre cerveau retient des passages, des émotions, des images et en efface d'autres?
D'abord, probablement parce qu'elles ont été vitales dans nos vies passées, en tout cas. Elles sont présentes parce qu'elles ne sont pas complètement passées. En particulier, par exemple, mon père, ma mère, ma sœur, ce sont des gens absolument vitaux dans mon existence, qui sont d'ailleurs toujours présents. Ma sœur, évidemment, elle est vivante. Mais mon père et ma mère, je leur parle tous les jours. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on les retient? En ce qui me concerne, moi, c'est qu'ils m'ont fabriqué. Quand quelque chose va ou quand quelque chose ne va pas, ils remontent à la surface immédiatement. On se souvient des choses, parfois, quand elles vous ont fait du bien, mais aussi quand elles vous ont fait du mal. Et quelquefois, d'ailleurs, ce mal finit par devenir un bien. C'est mon père qui m'avait dit, tu verras, toutes ces choses qui parfois t'ont déplu, blessé, tu verras avec le temps, ce sera attendrissant. Et il avait absolument raison.
Vous avouez que ce qui vous tient en vie, effectivement, que le seul remède et le seul antidote à cet adieu qui approche se trouve au théâtre.
Oui.
Parce que, effectivement, lorsque la vie semble s'arrêter, vous savez qu'elle recommencera demain et encore après-demain. Et que, par conséquent, même si vous avez l'air de mourir, le public continuera à applaudir.
Oui, un acteur qui a l'air de mourir en scène, il se relève et les gens applaudissent. En principe, quand il a été bon.
C'est ça la force du théâtre pour vous? Parce que le théâtre...
La mort n'existe pas. Je passe ma vie à jouer des vies qui ne sont pas les miennes et qui sont tout de même un peu les miennes. La fin n'existe pas. Elle existera. À un moment donné, je ne rentrerai plus en scène et ça s'arrêtera dans un silence apparemment éternel. Donc, si vous voulez, c'est un lieu où on ne meurt pas. On traverse les vies et on a l'impression que c'est infini. Donc, ça masque le fameux butoir, y compris quand ce qu'on incarne ne marche pas. Il peut y avoir une déception, mais on se dit, c'est pas grave, j'ai l'air de mourir, mais demain matin, je fais autre chose. Donc, c'est un endroit rassurant pour toujours.
Vous dites quelque chose de terrible en parlant de la disparition de vos parents. S'ils nous mettent au monde, nos parents, nous les mettons à mort. C'est terrible.
Oui, c'est terrible. Mais c'est comme ça. C'est qu'à un moment donné, ils vieillissent, ils avancent dans le temps, petit à petit ils s'effacent, nous prenons la place, leur force à eux petit à petit s'éteignent, ils partent et on prend la place. Donc au fond, d'une certaine manière, arrivant dans leur vie, nous sommes leurs assassins. C'est comme ça. À un certain moment, d'ailleurs, je suis devenu le père de mon père, qui avait la maladie d'Alzheimer, très tard, 98 ans, et je suis devenu son père. Ça n'est pas normal, mais ça peut faire partie de nos rôles, parfois. J'ai pas souhaité leur mort, bien sûr, ni à l'un ni à l'autre, ça m'a dévasté. Mais c'est simplement un fait mécanique, voilà.
Vous vous livrez vraiment à cœur ouvert, hein. Pierre Hardy, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de masque.
Il n'y a aucun masque.
Non.
Vous faites vraiment tomber, vous fendez l'armure. Vous nous livrez aussi.
J'en ai jamais eu d'armure. C'est du temps perdu. Il ne faut pas se protéger. Sinon, vous passez à côté de tout et de tout le monde. Après, c'est des chocs, de temps en temps. Et si vous commencez à vous protéger de ne pas regarder le monde autour, alors vous avez décidé de choisir un métier qui implique que vous embrassiez le monde, vous ne pouvez rien embrasser du tout.
Voilà. Vous abordez tous les sujets. Il n'y a, encore une fois, aucun sujet tabou dans cet ouvrage. Et vous dites, les choses ne changent pas, c'est nous qui
nous
changeons.
Qui changeons, oui.
Et c'est ce qui prouve que nous sommes vivants. C'est ça, ce livre?
J'ai bien l'intention de le rester, oui. Tout ce qui me prouve que je suis encore vivant est bon à prendre. Ça remonte à l'enfance, justement, vers 7 ans, quand on me force de faire des siestes. Comment peut-on demander à un enfant de se coucher et de tourner le dos à la vie, alors que l'enfant est un mouvement en lui-même? Donc on ne peut pas lui dire « allonge-toi et ferme les yeux », ça n'existe pas. Et donc j'ai appris en m'allongeant et en fermant les yeux, puisque ma mère et ma grand-mère voulaient que je le fasse. En entendant le bruit de la vie autour, ça m'a permis d'imaginer par des bruits familiers ce qui se passait que je ne voyais pas. Et donc je le créais moi-même, je le recréais moi-même. Donc ça prouvait que j'étais vivant, puisque dormir et fermer les yeux, c'est la mort pour moi. J'ai demandé ça à ma mère, mais j'ai écrit ça.
Oui, vous avez demandé
à 7 ans, je lui ai demandé c'est quoi la mort, et elle m'a dit, cette femme merveilleuse, pensant qu'elle me rassurerait, la mort c'est rien, c'est comme quand tu dors mais tu rêves plus. Ça m'a terrorisé, et donc j'ai décidé de ne plus dormir, et je ne dors plus vraiment depuis très très longtemps. Donc qu'est-ce qui me dit que je suis vivant? Le bruit du monde autour. Le bien le plus précieux, c'est la vie. On me dit, qu'est-ce que vous désirez encore vivre? Je ne vois pas d'autre version.
Merci beaucoup, Pierre Arditi, d'être passé dans le monde
des livres. C'est moi qui vous remercie.
Le souvenir de presque tout est disponible aux éditions du Cherche Midi. Merci infiniment.
C'est moi.
Et merci, Élodie Suigo.
France Info Météo, avec l'alarme Vérissure, dissuasion, détection, vérification et mise en fuite, pour une protection complète jour et nuit. Devis gratuit sur verissure.fr.
Christine Peña, vous venez avec une bonne nouvelle, une belle embellie dans la météo.
Belle embellie pour aujourd'hui, profitez-en, ça ne va pas durer. Alors oui, aujourd'hui nous avons ce soleil qui s'impose, il est voilé tout de même, notamment près de la Loire, entre la Loire et la Seine. Nous avons ce voile quand même qui opacifie un petit peu le ciel, mais ça sera lumineux. Plus au nord, les nuages sont assez présents. Ils resteront d'ailleurs assez présents le long des côtes de la Manche avec quelques averses, surtout sur la pointe de la Bretagne. Et puis dans le sud également, on a des petites remontées maritimes là sur le Languedoc-Roussillon qui viendront se caler vers les Cévennes. Alors sinon, avec ça, nous avons toujours ce risque très important d'avalanche sur les Alpes qui se maintient de 4 sur 5. Et puis nous avons cette douceur qui se généralise de 10 à 18 degrés pour les températures. C'est dans le sud-ouest qu'il fera de nouveau le plus chaud.
Merci beaucoup Christine Peña. À venir dans la prochaine demi-heure sur France Info. Marine Le Pen devant la justice à nouveau, procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires au Parlement européen. Évidemment une question, pourra-t-elle échapper à l'inéligibilité et se présenter à la présidentielle de 2027? Dossier complet dans 5 minutes. Et puis comment annoncer un cancer à un patient? Des malades guéris viennent aider à former les jeunes médecins. Le choix de France Info, très émouvant. Ce sera dans un quart d'heure. Merci d'être avec nous. De si bonne heure, il est 5h30.
France Info. William Guécosta.
Le parquet national anticriminalité organisée, le PNACO, nouvellement créé, s'est saisi pour la première fois après cet assassinat hier en Corse, celui d'Alain Orsoni, ancien dirigeant nationaliste, abattu dans l'après-midi lors des obsèques de sa mère, visé par un tir unique à distance, mode opératoire inédit qui plonge l'île dans la stupeur, mais aussi ses proches comme Gabriel Xavier Cuglioli, journaliste et écrivain.
Tout est réuni pour dire que c'est franchement dégueulasse. C'est dégueulasse. Il y a dans un cimetière, le jour où il vient exprès justement pour enterrer sa mère, une balle dans le cœur en plus. Excusez-moi, mais la symbolique est lourde. Même avant, dans la voyoucratie, il y avait quand même des choses qu'on ne faisait pas. Bon, il y a eu un cas dans la voyoucratie à Paris où il y a eu une fusillade dans un cimetière. C'était dans les années, je crois, 50 ou quelque chose comme ça. Mais encore, ça s'était jamais produit, jamais. Et c'est inimaginable. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait, excusez-moi, des petits salopards qui viennent avec un fusil, qui attendent pendant toute la cérémonie que Alain devienne une vraie cible et qu'il abatte alors qu'il est assis sur une marche devant le tombeau de sa mère parce qu'il était affecté. Parce que moi, j'ai connu Marinette, une femme formidable, et qu'il attend de ça, qu'il tire sur lui. Il y a des fois où on se dit que c'est dans une situation comme ça où ça commence à se dégrader par signes les uns après les autres. Alors on ne sait pas comment faire pour que ça s'arrête, parce que c'est vrai que c'est une société qui s'effondre.
Témoignage recueilli par ICI RCFM pour France Info. Tout pays qui commerce avec l'Iran sera frappé de droits de douane de 25%. C'est la menace de Donald Trump qui envisage aussi d'intervenir militairement contre le régime des Mollahs qui réprime dans le sang des manifestations depuis 2 semaines. Au moins 600 morts selon le bilan établi par des ONG. Un bilan très difficile justement à établir car le pays est quasiment coupé du monde. Ne ratez pas dans 5 minutes le témoignage d'un chercheur français qui a passé les fêtes en Iran et qui nous racontera son expérience, ce qu'il a vu. Rendez-vous dans 5 minutes sur France Info. Un cortège de tracteurs est attendu aujourd'hui au cœur de Paris, sur les Champs-Élysées et à la place de la Concorde. Cortège d'agriculteurs en colère qui a été autorisé par les autorités à l'appel de la FNSEA à l'approche de la signature imminente du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud, les pays du Mercosur. Signature attendue samedi. Hier, des barrages étaient à nouveau organisés. Barrages routiers sur l'A64 au sud de Toulouse ou encore sur l'A1 dans le Pas-de-Calais. Cette fois, c'est la coordination rurale qui est à la manœuvre. Le budget de l'État est de retour à l'Assemblée. Ce sera cet après-midi après avoir été rejeté en commission des finances. C'est la deuxième lecture du projet de loi de finances qui s'annonce encore bien agité. Camille Revel, le gouvernement espère ramener le déficit cette année à 5%, mais Camille, le compromis semble impossible à atteindre.
D'après les calculs du ministère des Finances, la copie sortie du Sénat porte le déficit à 5,4 voire 5,5% du PIB. Donc, pour atteindre l'objectif fixé à 5%, les députés vont devoir trouver 12 à 15 milliards d'euros. La ministre des Comptes publics dit vouloir faire émerger des convergences. Les amendements déposés par le gouvernement donnent une idée des pistes. Par exemple, l'un d'entre eux rétablit la surtaxe d'impôt sur les grandes entreprises et porte son rendement à 6,3 milliards. Mais ce rendement, les socialistes voudrait le faire monter à 8 milliards, tandis que les Républicains s'opposent par principe à toute hausse d'impôts. Aucun accord n'a d'ailleurs été trouvé en commission, idem pour la taxe sur les holdings. Et pour certains, l'histoire est déjà écrite. Le député Liotte Charles de Courson, ancien rapporteur du budget, l'assure, ça va finir, bien entendu, comme tout le monde le sait, par un 49-3.
Merci Camille Revel. Et puis une série de concerts pour la bonne cause. Les Enfoirés sont à Bercy à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi prochain. Ça commence par une répétition générale ce soir avant l'enregistrement pendant le week-end de la version qui sera diffusée à la télévision début mars au profit évidemment des Restos du Cœur à qui vous pouvez toujours faire un don sur restoducœur.org. Merci d'écouter France Info. Il est 5h34.
France Info. 5h-6h. William Gecosta.
C'est un procès qui va rebattre les cartes de la présidentielle de l'an prochain. Procès en appel dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front National. Marine Le Pen fait partie des prévenus. Bonjour Pierrick Bonneau.
Bonjour.
Service politique de France Info. Alors l'enjeu, Pierrick, de cet appel, il est finalement assez simple. Est-ce que oui ou non, Marine Le Pen pourra se présenter à la présidentielle de 2027 ?
En d'autres termes, est-ce que les juges de la Cour d'appel confirmeront sa peine d'inéligibilité avec exécution immédiate ? Et si oui, pour quelle durée ? En fait, plus personne au RN ne croit sincèrement en une relaxe, mais ces dernières semaines, plusieurs cadres du parti imaginent à voix haute le même scénario. Une condamnation de leur mentor, certes confirmée en appel, mais assortie d'une peine d'inéligibilité réduite à moins de 2 ans ou sans exécution immédiate, ce qui permettrait à la patronne des députés du Rassemblement National de briller une nouvelle fois la fonction suprême. Mais c'est un scénario parmi d'autres. Rien n'indique que les magistrats iront dans ce sens. D'autant qu'un proche de Marine Le Pen, également prévenu dans ce deuxième procès, fait remarquer que les juges de la Cour d'appel sont plus attentifs au droit qu'en première instance et prennent donc encore moins en considération le contexte politique.
C'est en tout cas ce qui se dit autour de Marine Le Pen, la patronne des députés du RN, qui se retirera, Pierrick, le cas échéant, après l'appel au profit de Jordan Bardella.
Absolument, sans attendre l'issue d'un éventuel pourvoi en cassation. La patronne des députés du RN l'a confirmé hier. Si la Cour d'appel l'empêche de se présenter en 2027, elle passera le relais à celui qu'elle a hissé à la tête de son parti.
Cet été, c'est-à-dire au moment où la Cour d'appel rendra sa décision, c'est là que se décidera ma présence ou mon absence à l'élection présidentielle, car quel que soit le niveau d'accélération de la Cour de cassation, vous comprenez bien qu'en septembre, le Rassemblement national doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale et la campagne doit démarrer, quel que soit ce candidat.
Marine Le Pen répond ainsi au premier président de la Cour de cassation qui affirmait la semaine dernière que la plus haute juridiction se prononcerait assez vite en cas de pourvoi. Mais Marine Le Pen n'attendra pas. D'ici là, la triple candidate à la présidentielle continue à croire en son destin. Elle le répète ces derniers jours en privé comme en public. Ce procès en appel est un nouveau procès avec de nouveaux juges, donc on repart de zéro.
Merci beaucoup Pierrick Bonneau du service politique de France Info. Il est toujours très difficile de connaître précisément le bilan en Iran où la répression se fait à huis clos avec des liaisons téléphoniques et internet brouillées depuis maintenant plusieurs jours. Au moins 600 personnes sont mortes dans les manifestations selon des ONG de défense des droits des Iraniens. Alors que se passe-t-il exactement? Voilà le témoignage d'une personne qui était très récemment encore en Iran, Kevan Gafaiti. Il est enseignant à Sciences Po Paris, président fondateur de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique. Il était à Téhéran depuis le 23 décembre. Il a passé les fêtes en famille sur place et il se trouve actuellement à l'aéroport de Doha au Qatar pour rentrer en France et il témoigne sur France Info de ce qu'il a pu voir.
Il est très intéressant de voir comment il y a eu une complète rupture de la chaîne informationnelle, c'est-à-dire que moi-même, depuis que j'ai maintenant accès à Internet, puisque jeudi, je peux vous le dire, heure locale, vers 21h30, 21h45, il y a eu une coupure complète de tout le réseau Internet. Et donc, non seulement Téhéran, mais tout l'Iran était plongé dans le noir total en termes d'information, à part vis-à-vis de la télévision et vis-à-vis du réseau téléphonique depuis 3 jours. Et donc, moi-même, je me réinforme de ce qui se passait en Iran et de ce qui se passe en Iran avec les médias internationaux, parce que je n'avais pas accès à ce qui se passait de rue plus loin. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sur place, vous ne pouvez naviguer qu'à vue. Que se passe-t-il localement autour de vous? Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'autre quartier ou à l'autre côté de la ville. On a effectivement une très très grande contestation qui n'a pas commencé jeudi dernier. En réalité, il y a un très fort enjeu économique par rapport aux sanctions et je peux vous dire que depuis 2 semaines, le bazar de Téhéran était absolument fermé. Alors le bazar qui est le centre-ville de Téhéran, mais qui est surtout le poumon, le centre névralgique de l'économie téhéranaise et iranienne étaient fermées en protestation de la vie chère et d'une insupportabilité des frais de vie. Et ensuite, vous avez une contestation économique qui s'est mue en contestation populaire et ensuite en contestation politique. Celle-ci est très étalée, est très diffuse et est très hétérogène. Elle n'est absolument pas unifiée par une figure centrale qui ferait absolument consensus. Vous avez différents courants qui s'opposent les uns par rapport aux autres, puisque là, je regarde les sites d'information, notamment français, qui disent que depuis seulement aujourd'hui, vous avez des manifestations, des contre-manifestations en soutien de la République islamique d'Iran. Et je peux vous confirmer que cela est erroné, puisqu'en réalité, dès samedi dernier, j'entendais, alors les slogans habituels, à savoir en persan, donc Margbar Omeriko, Margbar Israël, mort aux États-Unis, mort à Israël, donc, et ensuite et des soutiens en faveur de l'appareil sécuritaire en place, un appareil sécuritaire qui est extrêmement lourd, et ça, vous le voyez à deux moments. Vous le voyez la nuit, le soir, à partir de 20h, lorsque vous entendez, même, moi je n'ai pas pris part aux manifestants, hein, je le dis explicitement, j'étais chez moi pour des raisons vraiment sécuritaires, le but c'était quand même de pouvoir rentrer. Vous entendez d'une part les manifestants dans la rue, et d'autre part vous entendez l'encadrement, le verrouillage, la répression sécuritaire. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, très rapidement, chaque matin, vous voyez les stigmates matériels des destructions et de la violence de la veille. Vous avez des mosquées qui ont été brûlées. Alors, la mosquée, c'est tant le symbole religieux que le symbole de pouvoir. Vous avez beaucoup de banques, beaucoup de bâtiments officiels qui ont été attaqués, caillassés. Vous avez la voirie qui a été absolument endommagée. Vous avez ensuite aussi beaucoup de... on m'a montré des billes de flashball qui étaient tirées, mais qui sont dures comme du métal. Donc vraiment, qui sont létales potentiellement. Vous avez ensuite... moi, j'ai vu ensuite les images de morgue. Alors évidemment, ça, sur place, on n'a absolument pas ces images-là. On n'a absolument pas la réalisation de tout cela. On peut complètement voir qu'il y a, d'une part, une très très grande contestation, et d'autre part, un très très grand verrouillage de l'appareil sécuritaire en place. Le pouvoir en place est très affaibli, mais ensuite, est-ce que cela va aboutir sur quelque chose ? Je ne suis pas très optimiste.
L'enseignant à Sciences Po à Paris, Kevan Gafaïti, qui revient tout juste d'Iran, qui répondait sur France Info aux questions de Julien Langlais. Un an d'attente, c'est le délai pour rencontrer un juge des affaires familiales dans le cadre d'un divorce à Marseille, avec des conséquences très concrètes, des relations qui empirent, des enfants ballottés entre leurs deux parents le temps d'un jugement. Alors le barreau de la ville a décidé d'alerter et de lancer aujourd'hui une campagne de sensibilisation, Mathilde Vinceneux, avec un faux jeu de société.
Divorce, le temps joue contre nous. Voilà ce que l'on peut lire sur le plateau de ce faux jeu de société avec des cases qui résument bien le parcours du combattant en cas de séparation conflictuelle, paperasse, insomnie, dispute qui s'aggrave. Marie-Dominique Poinceau-Pourtal, bâtonnière du barreau de Marseille.
Cette situation est catastrophique puisqu'aujourd'hui, les délais devant le tribunal judiciaire de Marseille pour accéder au juge avoisinent les une année.
Et les premières victimes de cette lenteur judiciaire, ce sont les enfants, explique Julie Taxil, avocate.
Comment on fait pour les vacances scolaires ? Pensez à un enfant de 5 ans qui ne sait pas avec qui va passer Noël. Qui les récupère à la sortie de l'école ? Papa ou maman ? Certains enfants, et ça je l'ai vécu, ont les deux parents à la sortie des classes. Que fait la maîtresse ? C'est le plus fort qui gagne ? C'est celui qui s'impose. C'est là qu'on assiste à des situations de plus en plus violentes.
Charlotte en a fait les frais. Cette maman de 3 enfants est restée sous le choc quand son avocate lui a annoncé qu'elle devrait attendre 10 mois avant de voir un juge pour son divorce.
En fait, on a le souffle coupé. On se dit quoi, encore autant de temps je vais attendre ? Personnellement, au sein de mon couple, ça s'était dégradé, vraiment. Et tant qu'on n'a pas de décision de justice, moi personnellement, je n'arrivais pas à partir parce que j'avais peur que la situation, ça se retourne contre moi. C'est difficile pour la maman, c'est difficile pour les enfants parce qu'on est coincé dans une situation qui va mal. J'avais un petit garçon de 9 ans qui faisait beaucoup pipi au lit.
Quand la décision du juge est enfin tombée, les 3 enfants de Charlotte ont retrouvé le sommeil. Le barreau de Marseille alerte depuis longtemps sur les conséquences de cette lenteur judiciaire. Un courrier a été envoyé au ministre de la Justice dès le mois d'octobre 2024. Cette attente favorise les violences dans les familles, martèle Nathalie Rampal, avocate.
On est étonné qu'à ce jour, on n'ait pas de réponse dans la mesure où la lutte contre les violences intrafamiliales est une priorité nationale depuis plusieurs années désormais.
Récemment, un juge aux affaires familiales supplémentaire est venu renforcer les équipes du tribunal, mais cela n'a pas suffi pour rattraper le retard, s'inquiète le barreau de Marseille.
France Info, reportage à Marseille, signé Mathilde Vinceneux. La justice suisse a confirmé la détention provisoire du gérant français du bar de Crans-Montana qui a brûlé le soir du réveillon, mais il pourrait sortir assez vite. On vous explique pourquoi. Ce sera après un tour complet de l'actu.
France Info, reportage, partout avec vous.
Les bars, on en a besoin pour la vraie relation.
Jean-Marc vient tous les jours prendre le café le matin et discuter le soir.
Internet, ça tue tout ce qui est au niveau relationnel. Que là, regardez, tout le monde se parle et c'est la vraie vie.
Sur le terrain, sur tous les terrains.
Si demain, il est expulsé, c'est la vie, répond Eddy. Il est 6h du matin, le centre communautaire de Pasadena vient d'ouvrir. L'immigré originaire du Guatemala est parmi les premiers.
On n'a pas de papier américain, pas de permis ici. Si quelqu'un a besoin de nous pour tout type de job, il appelle ici.
France Info, pas juste l'info, l'info juste. France Info, 5h-6h.
6h moins le quart, c'est l'heure de l'info en une minute avec Laura Dulieu. Et à la une, le procès en appel de Marine Le Pen.
Dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, la chef de file du RN joue sa candidature pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen avait été condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité immédiate et 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. Après l'assassinat d'Alain Orsoni en Corse, le nouveau parquet anticriminalité organisé se saisit de l'enquête. Cet ancien dirigeant nationaliste corse a été abattu hier en Corse du Sud lors des obsèques de sa mère. Une seule balle a été tirée à plus de 50 mètres de distance. Au moins 2 personnes ont été tuées en Ukraine cette nuit par des frappes russes près de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Des attaques sont aussi signalées dans la région de Zaporijjia et de Kiev, la capitale, où les autorités appellent les habitants à la prudence. Le Paris Saint-Germain abandonne son premier titre de la saison après le derby perdu hier en 16e de finale de la Coupe de France. Le PSG éliminé 1-0 par le Paris FC.
France Info.
Il a été placé en prison en Suisse vendredi dernier et il pourrait donc bien ressortir très vite. Jacques Moretti, le gérant français du bar Le Constellation, ravagé par un incendie le soir du réveillon à Crans-Montana. 40 personnes ont perdu la vie ce soir-là. Bonjour Margot Steve.
Bonjour.
Service police-justice de France Info. Alors, il pourrait donc bien ressortir alors que le tribunal vient pourtant de valider hier son placement en détention préventive.
Oui, Jacques Moretti était parti dès vendredi en détention préventive. Le tribunal des mesures de contrainte avait 72 heures pour valider cette décision, ce qu'il a fait hier. Les magistrats se sont prononcés pour une incarcération de 3 mois renouvelable. Sauf, et la nuance est importante, que ce tribunal a dans le même temps ouvert la possibilité pour Jacques Moretti d'être libéré sous certaines conditions. Si le gérant du Constellation a été envoyé en prison, c'est qu'il y avait, selon la justice, des risques qu'il prenne la fuite. Ses obligations, elle vise donc à empêcher que cela n'arrive. Selon l'avocat de Jacques Moretti, ces mesures sont de plusieurs ordres. D'abord et avant tout, le versement d'un montant de sûreté, l'équivalent d'une caution, mais aussi le port d'un bracelet électronique, la remise de ses papiers d'identité ou encore l'obligation de pointer régulièrement dans un commissariat. Tout cela peut être facilement et rapidement mis en place, assure à France Info maître Patrick Michaud. Selon lui, son client pourrait donc être libre d'ici la fin de la semaine. D'autant, rappelle le tribunal, qu'en Suisse, la détention préventive ne doit être réservée qu'au cas exceptionnel.
Jacques Moretti qui pourrait donc bientôt rejoindre son épouse Margot qui, elle, n'a jamais été incarcérée.
Oui, vendredi, après une audition de plus de 6 heures, la justice avait décidé de ne pas la placer en détention. Là aussi, sous certaines conditions, sensiblement les mêmes que celles proposées à son conjoint. À la sortie du tribunal, elle avait adressé quelques mots à la presse, visiblement très émue.
Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et jamais, jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et ça s'est passé dans notre établissement et je tiens à m'excuser.
Des propos qui n'avaient pas convaincu les familles de victimes. Elles doivent désormais accepter l'idée que Jacques Moretti ressorte presque aussitôt de détention. Incompréhensible pour les parties plaignantes, d'autant, dit l'un de leurs avocats, qu'il y a un risque que des preuves soient détruites ou que des témoins soient intimidés si les deux gérants sont en liberté.
Merci pour ces précisions, Margot Steve du service police-justice de France Info. Il est 5h48 et c'est l'heure du choix de France Info. C'est une très mauvaise nouvelle qui tombe chaque année pour 400 000 personnes. Nouvelle dévastatrice pour ceux qui découvrent qu'ils ont un cancer. Et parfois, certains médecins n'ont pas la bonne méthode pour le dire ou alors manque de tact. Alors la Ligue contre le cancer organise des séances de formation entre d'anciens malades et des soignants. Bonjour Anne Lordanier.
Bonjour.
Vous avez assisté à l'une de ces rencontres près de Nantes.
J'ai retrouvé ce groupe de futurs médecins dans une salle de l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Saint-Herblain. Une dizaine d'étudiants en médecine, assis en demi-cercle, et face à eux, deux anciens patients. C'est Christelle qui commence.
Bon, alors c'est parti. Alors moi, j'ai eu un cancer en 2014. J'avais 40 ans. J'ai toujours deux enfants. Et donc, en février 2014, à quelques jours de la Saint-Valentin, je découvre, en prenant ma douche, une boule dans mon sein droit.
Christelle a un cancer du sein très agressif. En l'apprenant, elle va s'effondrer dans le bureau du chirurgien.
Je vois la bouche de mon chirurgien parler, mais il n'y a plus de son, plus d'image. Et je suis en train de tomber dans les pommes, en fait. Et ce monsieur qui était derrière son ordinateur en train de m'expliquer techniquement ce que j'allais vivre s'accroupit près de moi et me dit cette phrase qui va déterminer tout mon parcours. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment on va y arriver, mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'on va y aller ensemble. Et ce mot-là, pour moi, ça a été le mot magique de la confiance, de la mise en sécurité.
Pour Alain, ça ne s'est pas du tout bien passé lors du rendez-vous chez le chirurgien quand il a découvert son cancer de la prostate.
Il est parti dans une analyse dont je ne connaissais ni les tenants ni les aboutissants. Et puis j'essaye une petite remarque. Ça a l'air de vous inquiéter, ce qui se passe là. Pas de réponse. Et puis ça dure très longtemps. Je sens que c'est pas bon, quoi. C'est vraiment... Et puis à la fin, il me dit, écoutez, vous me demandez si c'est grave, je dirais que vous êtes sur une coquille de noix, sur un océan, il y a une tempête force 7. Ouais, j'aime pas l'eau, je ne sais pas ce que ça veut dire, il n'arrivait pas à faire l'annonce, quoi. Ça va pas. Je me suis senti mortel.
Et après avoir écouté ces témoignages, Anne-Laure, les étudiants en médecine ont pu ensuite poser des questions à ces anciens malades.
Et la question évidente, c'est Jeanne qui la pose.
Souvent, on a des grosses suspicions et je me demandais si pour vous, le mot cancer, c'était grave. Mais du coup, visiblement, vous dites, ça vous aurait rien changé que la médecin emploie le mot cancer, quoi.
C'est une préparation douce, à feu doux, en fait, pour éviter de plonger la grenouille directement dans le bain bouillant. Mais faites confiance à vos patients, ils sont pas bêtes. Mais ils peuvent être dans une phase de déni. Et moi, j'en étais pas loin, hein.
Lise, une autre étudiante en médecine, a une question très ouverte.
Est-ce qu'il y a des choses où vous dites... Il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui auraient pu m'aider en tant que patiente.
S'il y a une chose que j'ai envie de vous faire passer, c'est surtout qu'avant de voir la maladie en quelqu'un, voyez d'abord le quelqu'un. Demandez-lui comment il va, ouvrez-lui la porte des questions. S'il se sent entendu, vous n'aurez pas de mal à le soigner, vous n'aurez pas de mal à lui parler des rechutes, des problèmes, des complications, parce que la confiance sera là et après... Une fois que nous, on est en confiance, on vous suit, mais sans limite.
Il y a aussi les réactions des patients qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre pour ces futurs médecins. Au bout de plusieurs années de traitement, Alain a voulu arrêter l'hormonothérapie.
C'était quoi les effets qui vous dérangeaient de l'hormonothérapie? C'était les effets sur les hormones, la libido, oui, voilà.
La libido, et puis comme je vous l'ai dit, j'étais très sportif. Et là, c'était plus possible.
La fatigue.
Oui, fatigue, saute d'humeur. Oui, cette déchéance physique, hein, c'est bizarre.
À la fin de la réunion, le docteur Magali Leblanc-Offroy, oncologue radiothérapeute, donne la parole aux étudiants. Jeanne, qui est en sixième année de médecine, commençait à douter de son choix.
Moi, en ce moment, je me sens vide et je ne sais plus pourquoi je fais ça. Et vous avez tous les deux fait référence à des phrases que vous ont dit des médecins. Moi, ça m'a fait du bien d'entendre qu'on pouvait être utile, que vous vous souvenez de choses qu'on dit.
L'important, c'est la posture que vous avez, l'écoute, toute l'humanité qu'on peut mettre dans le bonjour, l'accueil, comment allez-vous, est-ce que vous avez compris, où est-ce que vous en êtes dans votre maladie, comment ça se passe pour vous, voilà.
Et puis, regard dans les yeux, voilà. C'est tellement important, ouais. Un regard bienveillant.
C'est vraiment cette bienveillance, cette présence qui est importante, oui.
Et donc le meilleur reste à venir dans votre activité.
La Ligue contre le cancer organise régulièrement ce type de rencontre entre d'anciens malades et des soignants en formation ou déjà en exercice.
Merci Anne-Laure Danier. On réécoute votre choix de France Info sur l'application Radio France ou sur franceinfo.fr. Du rap pour apprendre ses leçons, c'est dans la playlist de Laura Dulieu qui arrive. Ce sera après le réveil de l'écho d'Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Comme tous les matins dans ce 5-6, l'actualité économique en trois titres. On commence, Emmanuel, avec 2025 qui s'annonce comme un très bon cru pour Airbus.
Oui, le constructeur aéronautique européen a vu ses ventes d'avions commerciaux progresser de 4% l'année dernière avec 793 appareils vendus à 90 clients. C'est un peu plus que prévu. Airbus qui décroche par ailleurs un grand contrat pour renouveler la constellation satellitaire OneWeb de Telsat. Un contrat capital pour renforcer le poids de l'Europe face au monopole de Starlink, la constellation satellite de l'américain Elon Musk qui offre un accès à Internet très haut débit. Airbus va fournir ainsi à Eutelsat 440 satellites qui seront fabriqués sur une nouvelle chaîne de production à Toulouse.
L'Allemagne et l'Inde, Emmanuel, vont renforcer leur coopération dans l'industrie de la défense.
Oui, un partenariat présenté comme stratégique par le chancelier allemand Friedrich Merz face aux changements géopolitiques dans le monde. Au sein de l'Union européenne, il faut savoir que l'Allemagne est le principal partenaire de l'Inde avec un volume d'échanges bilatéraux annuels de près de 50 milliards d'euros. New Delhi et Berlin souhaitent également approfondir leur partenariat dans les semi-conducteurs et les minéraux critiques, mais aussi dans les domaines de l'énergie, du commerce et des investissements.
Le cinéma français se porte bien à l'étranger.
Oui, en dehors de nos frontières, les productions françaises ont connu une année 2025 plutôt réussie, attirant 42,5 millions de spectateurs selon les estimations d'Unifrance qui représente le secteur. C'est une hausse de 6% par rapport à 2024. Alors le cinéma français retrouve le niveau de fréquentation à l'étranger qu'il avait connu en 2023, mais reste inférieur d'environ 30% à la moyenne enregistrée sur les années 2017-2019, c'est-à-dire avant la pandémie de Covid-19.
Emmanuel, on va vous retrouver dans une demi-heure sur France Info pour un précieux Brief Eco.
Le prix de l'or et l'argent s'envolent. Ces deux métaux précieux battent de nouveaux records. L'or, l'once d'or, 31 grammes, vaut ce matin 3900 euros, ce qui fait le lingot d'un kilo. Je vous fais pas faire le calcul, c'est 125 000 euros le kilo. Or et argent, on le sait, valeur refuge, c'est pas nouveau, mais cette fois, les marchés financiers s'inquiètent des attaques du président américain Donald Trump contre la Banque centrale américaine. Trump veut prendre aussi le pouvoir monétaire, mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille de l'autre côté de l'Atlantique.
Le bijou de l'écho tous les matins, Emmanuel Cuny.
Vous en êtes un autre.
À 5h55, c'est l'heure de la playlist de France Info avec vous, Laura Dulieu. Alors on le sait bien, c'est toujours plus facile d'apprendre en musique. Et ce matin, vous nous présentez un enseignant qui lui apprend les maths à ses élèves avec du rap.
Et il s'appelle Radouane Abbassi, prof de maths au collège Jean Vigo d'Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis. Et pour faire rentrer plus facilement les notions de mathématiques dans la tête de ses élèves, il a trouvé cette méthode qu'il a fait connaître sous le pseudo Great Teacher Isaba sur YouTube. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il rappe les maths.
Laisse-moi tranquille, je suis qu'un prof de maths et il est temps de parler de polygones. Donc prends ta règle.
Ça, c'est la leçon 8 sur les polygones. Ça vous a rappelé des souvenirs, j'imagine. Est-ce que vous avez reconnu l'instrumental sur laquelle il rappe, Radouane Abbassi?
Ça ressemble beaucoup à PNL. Hein.
Exactement, l'incontournable Onizuka.
Le rap, ça aide aussi à comprendre d'autres matières, Laura, comme la philo.
Oui, il a aussi régulièrement, en général, quand le bac approche, des vidéos qui mélangent rap et concepts philosophiques afflue sur les réseaux sociaux. Ceux qui s'étaient fait remarquer il y a quelques années en rappant de la philo sur TikTok, c'est Fellure et Andro.
Dis-moi Fellure, c'est quoi le cours aujourd'hui? Aujourd'hui les stoïciens, dis-moi Andro, t'as maté la guerre des étoiles?
Bah ouais,
voilà, tu te souviens de l'éthique? Ici un rap qui fait le parallèle entre les stoïciens et la guerre des étoiles. Il y a aussi PV Nova et Cyrus North, encore avant, qui avaient sorti une série rap philo.
Appelle-moi donc René, enfin je crois bien que ça fait du sens. Pour un mec dont c'est le prénom, qui naît à la Renaissance, je pratique le doute systématique pour traquer l'indubitable. La vérité, mon pote, enfin son socle inébranlable. 1, 6, 3, 7, le discours de la méthode man, profession de foi ou pas d'un cartésien.
Ah oui, c'est bien efficace, hein, j'ai
voilà,
l'impression.
Pour reprendre un peu René Descartes, ça marche pas mal.
Oui, mais tout ça, ça ne reste peut-être que des outils, Laura.
Oui, c'est Radouane Abbassi lui-même qui le dit, on n'apprend pas et surtout on ne comprend pas. Par exemple, le théorème de Thalès en 2 minutes, il faut le travailler. En revanche, avoir une mélodie et quelques mesures de rap qui restent en tête, ça peut aider à le retenir ensuite. Et puis surtout, ça motive et pas seulement pour réviser. Le prof de maths ne s'est pas arrêté là, plusieurs clips musicaux ont vu le jour avec la participation des élèves, jusqu'à carrément une web-série, de quoi se frotter à l'écriture et à la réalisation de courts-métrages. Alors, est-ce que vous pouvez me réciter de tête le théorème de Pythagore,
oh là,
William?
Mais c'est très dur.
Voilà, je sens que vous en avez un peu besoin. Je vous propose quand même une petite révision.
Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour faire des rimes hardcore, mais pour vous expliquer le théorème de Pythagore. Mais d'abord, faut voir si le triangle est bien rectangle. Si c'est pas le cas et que tu l'utilises, je te jure, je t'étrangle. Ensuite, tu dois repérer l'hypoténuse. C'est le plus grand côté, mais ça tu le sais depuis des lustres. C'est le côté du triangle en face de l'angle droit. Je précise pour ceux qui se demandent en
encore, je parle de quoi?
Et le théorème nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des deux autres côtés. La somme, c'est l'addition, pour ceux qu'on déjà oublié, pour ceux qui en sixième en cours de maths ont trop roupillé. Mettre un nombre au carré, ça t'en est capable. C'est un nombre qu'on multiplie par lui-même, pas par deux. Et là, on doit remplacer les deux côtés qu'on connaît par leur valeur indiquée.
La somme des deux côtés opposés.
De Fianso.
Ah ben c'est bon, tout me revient. Merci beaucoup. Laura Dulieu pour la playlist du jour. Allez, la météo en chantant avec Christine Peña.
France Info Météo avec Vérissure. Qui dit nouvelle année, dit nouvelle priorité, votre sécurité. Demande de devis gratuit en moins d'une minute sur Vérissure.fr.
En chantant ou en rappant, en chiche.
Ouais, pas certaine.
Oui. Non, vous n'êtes pas certaine de vous. Bon, non. Écoutez, faites-la en parlant déjà, la douceur qui se généralise, Christine
Peña. Exactement, c'est une journée calme, quasi sans pluie, donc on va continuer. On va pas... Alors, le froid régresse, c'est vrai. Alors qu'en Europe centrale, vous savez qu'il reste marqué, ce froid. Il a fait fréquemment moins 10 à moins 20 degrés sous les sols enneigés hier, jusqu'à moins 29 localement en Autriche. C'est là où il fait le plus froid, je crois.
Oui.
Ce froid toujours glacial entre l'Ukraine et les pays de Balte, les Balkans, la Scandinavie également, il fait très froid. Et ce froid pourrait revenir d'ici la fin de la semaine, mais les modèles se contredisent encore, donc à vérifier. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que la douceur est assez marquée. 18 degrés au pied des Pyrénées, ça fait quand même très chaud hein, pour un mois de janvier. Mmh. 15 degrés en Méditerranée cet après-midi. 10 sur le nord-est, en Alsace, en Lorraine, là ça grimpe. 12 degrés à Paris, 13 à 14 de la Bretagne au Pays de la Loire, de 10 à 11 pour les Hauts-de-France. Nous avons toujours des nuages hein, le long des côtes de la Manche et puis avec des averses, surtout sur le Finistère d'ailleurs, sur la pointe de la Bretagne et puis également sur le Roussillon jusqu'aux Cévennes. Là aussi, les entrées maritimes sont encore présentes aujourd'hui.
Merci beaucoup Christine Peña. Alors il fait plus chaud à Paris qu'à Vienne, ça tombe bien. Vous êtes à Paris, à la maison de la radio pour votre 6-9, Jérôme Chapuis.
Bonjour Jérôme. Merci William, je vous laisse réviser de la...